Connard !
Héruta-t-elle, le cœur encore battant. Les Springboks avaient déguerpi et ses jambes tremblaient. Elle n'avait pas vu le visage du conducteur, mais seul un homme pouvait se comporter ainsi. Solana acheva la réparation en maudissant le chauffard, nettoya ses mains avec l'eau d'un des bidons et reprit la route en souhaitant retrouver la Ford bleue plantée dans le décor. Les zones dites commerciales, aux mains de 4000 fermiers blancs, couvraient près de la moitié du territoire et étaient consacrées à l'élevage bovin et surtout ovin. La réforme agraire souhaitée par les petits paysans, promesse électorale majeure de la SWAPO, n'avait jamais vraiment été appliquée. Les fermiers blancs réalisaient 80% de la production agricole, tout en offrant du travail à 40 000 ouvriers noirs. L'échec de la réforme agraire au Zimbabwe, où les animaux étaient morts de faim après l'expulsion des propriétaires blancs, n'incitait pas à suivre un chemin aussi radical. Solana ne savait pas à qui appartenait l'ancienne ferme de la famille Malan, mais son GPS indiquait qu'elle n'était plus très loin. Wirral's End. La fin du monde. Une piste de sable rouge traversait le désert, longeait les montagnes découpées comme si un artiste avait allongé des vagues au fil de son imagination. Il n'y avait plus de clôture, mais de rares gardiens de troupeaux faméliques, parfois un village d'Amara où des gamins trop mignons lui adressaient des signes. Solana eut un pincement au cœur devant leur dénuement, et ils avaient l'air plutôt heureux. La piste se perdant, elle roula au creux d'une rivière éphémère où les déjections des éléphants se mêlaient à celles des rhinocéros. Plus loin dans le lit asséché, deux lions dormaient de tout leur long à l'ombre d'un acacia, après une dure nuit passée à surveiller leur territoire. Les lions du désert étaient peu nombreux et souvent victimes des villageois à qui ils volaient le bétail faute de proies sauvages. La cohabitation n'était pas sans heurts. Léopards, lions et éléphants détruisaient barrières et enclos. Les fauves se servaient au hasard des crâles mal défendus sans savoir qu'ils risquaient la mort en représailles. Quand les chacals n'amenaient pas la rage, les éleveurs les tuaient avant qu'ils ne s'en prennent aux animaux domestiques, à leurs brebis ou aux quelques poulets qui picoraient dans leur cour commune. D'ordinaire, les fermes se regroupaient sur des territoires restreints, chacun surveillant les clôtures de ses voisins pour mieux l'alerter d'une tentative de braconnage ou de la présence d'un fauve. Mais les hommes étaient à peine quelques milliers à oser vivre dans ce désert de rocailles, plus grand que le Portugal, la Hongrie ou Cuba. Solana suait abondamment malgré la climatisation de la voiture quand un villageois lui indiqua la direction de Wirral's End, de l'autre côté de la montagne. La Namibie s'appelait encore Sud-Ouest Africain, sous protectorat sud-africain, quand Gunther et Kendall Malan s'étaient installés à Wirral's End, un lieu dit perdu du Damaraland, l'actuel Kunene, où les colons africaneurs avaient tenté leur chance dans les années 1960. La ferme qu'ils bâtirent copiait les maisons hollandaises du Cap blanchies à la chaux, avec un toit de tôle et des frontons incurvés. De gros chiens hargneux montaient la garde à l'ombre des tamariniers et des eucalyptus irrigués, malgré l'aridité du désert. Les Malanes portaient le souvenir des Boers traumatisés par les camps de concentration, où les Anglais avaient laissé leurs ancêtres mourir de faim par dizaines de milliers. Kendall avait de grandes robes à fleurs et la même coupe de cheveux années 1950 que sur ses photos de mariage. Gunther, un short beige et des chaussettes à mi-mollet, qu'il avait épais comme des bûches. Gunther employait les populations indigènes sous tutelle qui, de sécheresse en sécheresse, s'échinaient à élever le bétail sous le soleil dur. Yann était leur fils unique, leur joie et leur fierté. Le Bush avait fait de lui un garçon athlétique, endurant et inventif, évoluant la moitié du temps au grand air au contact des employés de la ferme. Les Noirs qui gardaient le bétail vivaient encore dans des huttes, de pauvres bougres illettrés qui demandaient du travail aux bases de la région via un passe humiliant qui les rendait corvéables à merci. Selon Gunther, on ne pouvait aimer ces sauvages paresseux et craintifs, incapables de penser au lendemain, des êtres au présent qui ne faisaient que passer dans l'histoire de l'humanité. Yann était blanc, son père le lui avait assez dit, et il ferait de lui un homme. Gunther lui avait appris à tirer au fusil, à dépecer le gibier, à pister et à conduire sur les chemins les plus cabossés.